tourisme peut être social et solidaire.
C'est le credo de l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme, qui regroupe des acteurs divers et dynamiques du secteur. Le tourisme comme loisir pour tous, mais aussi avec une vocation pédagogique, culturelle, sociale et solidaire. Éducation à l'environnement, développement durable et accès solidaire sont autant de secteurs à mille lieues d'un tourisme de masse fait de consommation effrénée, à bonne dose de marketing et de rentabilité. Et dans les réflexions menées à ces restes pendant l'Assemblée générale de l'UNAT, PACA, il fut question de labels et de marques pour exister. La question est posée simplement, mais les réponses ne sont pas uniformes et unanimes, loin s'en faut. Chacun a son approche quant aux marques et la lisibilité recherchée doit convenir. La multiplication des labels entretient la confusion dans le public qui lui préfère parfois les référencements internet ou le bon vieux bouche à oreille. Faut-il pour autant rester dans son coin et bouder toute innovation au risque de disparaître ? Les membres de l'UNAT préfèrent une approche participative et dynamique. Ainsi, la marque PARC est un véritable atout et un réseau très positif. Les opérations de promotion comme Bienvenue à la ferme ont aussi leur impact et permettent des partenariats constructifs. Je vous propose d'écouter deux intervenants de l'Assemblée Générale de Cérest, le président régional de l'UNAT, Yannick Gallienne, et le président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, Denis Philippe, qui rappelle le bien fondé du tourisme social. Également présent, le député-maire de Fort-Calquier, Christophe Castaner, à qui la question du rôle de l'État et du législateur a été posée sur ce sujet précis. C'est un reportage de François Malabave, Yannick Gallienne.
C'est un organisme qui regroupe et fédère les acteurs d'un tourisme qu'il convient d'appeler tourisme à vocation sociale, un tourisme qui s'inscrit dans la démarche de l'économie sociale et solidaire. Et donc l'UNACT a pour objectif de défendre les intérêts de ce type de tourisme, de le promouvoir et puis aussi de valoriser un petit peu l'offre qui est faite en direction d'un certain nombre de publics.
Vous avez beaucoup parlé et évoqué ici les questions de marques, de labels, de dispositifs divers et variés.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est presque impossible d'échapper à cette mode. Je parle de mode, même si d'un côté, c'est intéressant et important parce que ça permet de mieux identifier ce que vous pouvez faire ou ce que vous êtes. Cette superposition et cette atomisation devient parfois compliquée. C'est aussi beaucoup de normes, c'est aussi beaucoup de guides de bonne conduite, c'est aussi beaucoup de procédures. Bon, écoutez, c'est comme ça qu'on fait un peu avec. On essaye quand même d'être dans l'air du temps. Par contre, il peut y avoir un avantage, c'est que ça vous permet d'exister de manière un peu plus évidente et peut-être en tout cas d'être perçu de façon plus précise que si vous n'aviez pas le label X, Y ou Z. Donc on essaye avec nos adhérents d'avoir parfois cette reconnaissance que nous confère l'adhésion à un label ou une marque.
André Berger, qui est hôtelier mais également vice-président du Parc du Luberon, le disait, quand on a un label, c'est aussi une chose à laquelle il faut apporter évidemment plutôt que d'attendre de ce label.
De toute façon, si on n'apporte rien, ça voudrait dire qu'on l'achète. C'est comme si on achetait une sorte de bonne conscience et un droit à exister, quoi. Donc nous, on dit qu'on apporte. Nous, on dit que notre tourisme, ça fait plus de 60 ans qu'il existe. Nous, on dit que ce tourisme, il valorise des territoires, il valorise une culture. C'est pas un tourisme prédateur. Il était déjà, je pense, protecteur, pour pas dire durable, d'une nature avant l'heure. On apporte effectivement toute cette culture. Alors si aujourd'hui, pour qu'elle soit mieux reconnue et mieux perçue, il faut la mettre en équation en achetant un label, entre guillemets, quand j'y achetais, c'est simplement la procédure. Bon, écoutez, pourquoi pas, on le fait. Mais on rappelle quand même que nous avons été les initiateurs de cette démarche qui vise à rendre ce tourisme durable.
À vos côtés, Denis Philippe, président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi la Chambre dans une opération comme celle-ci ?
D'abord pour apprendre, pour faire le constat que l'UNAT est un acteur actif au sein de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et que mon ami Yannick Gallien, qui m'a fait le plaisir de m'inviter aujourd'hui, il avait des choses à me dire et effectivement, j'ai appris beaucoup de choses cet après-midi. Ça vient confirmer ce que je pensais, c'est-à-dire que on utilise probablement au sein de la Chambre, pas assez, le secteur touristique et le secteur touristique de l'économie sociale et solidaire pour l'action de la Chambre. Et je pense que c'est de nature, si on avait cette reconnaissance, cette volonté de faire ensemble, d'abord de pouvoir construire des projets collectifs, c'est-à-dire que par le tourisme social, par le tourisme en général, on peut ouvrir un certain nombre de portes dans cette région, puisque nous sommes un département touristique, on le sait, et ça serait de nature, à mon sens, et c'est ça qui est important, à pouvoir apprendre à travailler ensemble et à répondre ensemble, collectivement. On a évoqué, vous l'avez vu, à la fin de cette réunion riche, des problèmes auxquels peuvent être confrontés des centres de vacances. Yannick Gallien le rappelait. Mais c'est vrai que la réponse, elle est peut-être en interne. Et parfois, on va chercher ailleurs, ce qu'on peut trouver au sein même des entreprises que la Chambre fédère. C'est cette réflexion-là que je veux mener. Je veux donner, je crois, une place beaucoup plus importante que celle qu'elle a au tourisme social demain au sein de l'organisation de la Chambre.
Il y a également le vecteur culturel, le vecteur pédagogique, Bernard Josso en a parlé tout à l'heure, et puis aussi, bien sûr, le développement durable.
Tout est réuni dans le tourisme social et solidaire, et j'oserais dire, ce que porte le tourisme social et solidaire, ce sont les valeurs mêmes de l'économie sociale et solidaire, et on a la traduction efficace, directe. C'est-à-dire, si on avait une formation, si on voulait faire la démonstration de l'intérêt de l'économie sociale et solidaire dans ce pays, dans cette région, de sa réalité, ben c'est par le tourisme social qu'on pourrait le faire à tous les niveaux. On l'a vu dans l'après-midi, au niveau de l'enfance, au niveau des touristes qui vont venir demain, de l'explication qu'on peut leur donner de la réalité d'un territoire. On a tout qui est réuni. On a le, si vous permettez l'expression, le pain et le couteau, et on ne sait pas l'utiliser. Alors, bon sang, nous, au niveau de la Chambre, on n'a quand même pas laissé passer cette occasion de pouvoir porter ce message grâce à cette porte d'entrée que nous avons et que nous n'avons pas su ouvrir.
Yannick Gallien, le fait d'avoir un tourisme social ou non social qui est dans nos secteurs ultra concurrentiels, vous êtes armé pour cela ?
Je pense qu'on est armé en matière de produits, de professionnalisation, de compétences, sans vouloir être prétentieux. Après, lorsqu'il faut entrer dans une démarche marketing, commerciale, c'est plus compliqué. Mais c'est le problème aujourd'hui des hôteliers, c'est le problème d'un tourisme qui n'est pas un tourisme international de chaîne, qui n'a pas la capacité de s'afficher, même plus dans le métro. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'affichage publicitaire. C'est les sites qui sont sur Internet et qui vampirisent l'ensemble de la profession, comme dans d'autres domaines. On est dans cette mondialisation de l'économie qui est plus que complexe et qui risque de laisser sur le bas-côté de la route tous ceux qui sont non pas amateurs, mais qui n'ont pas les mêmes moyens.
Les marques et les labels sont peut-être une réponse, mais il y a pléthore de marques et de labels, je ne vais pas vous l'apprendre. On n'est pas là dans une logique un petit peu de superposition des opérations ?
Moi, je dis que oui, et les marques et les labels ne sont pas forcément une réponse, parce que je répète, n'importe quel opérateur touristique qui a pignon sur rue aujourd'hui peut se prévaloir du même écolabel, du même label Green Globe, alors que peut-être qu'à part le fait de l'avoir intégré, de le respecter, ils n'ont rien de commun avec nous, mais en plus, eux, ils ont la capacité de communiquer que j'évoquais tout à l'heure. Donc même les marques et les labels, si vous voulez, c'est presque un nivellement par le haut. Tout le monde a sa marque, tout le monde a son label. Est-ce qu'il valait pas mieux comme avant, finalement, ne pas en avoir, et puis après, c'est le bouche à oreille qui faisait la différence. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de bouche à oreille, il y a l'Internet à oreille, ou les fameux réseaux sociaux qui n'ont de sociaux que l'appellation, parce qu'après, les gens se lâchent, balancent ce qu'ils veulent. Si on a des mauvaises appréciations, à la limite, on va s'arranger pour avoir des faux témoignages qui démontrent le contraire. Donc là, bon, je suis un peu pessimiste en disant ça, je continue de penser qu'on aura nos chances à partir du moment où on saura cultiver aussi la fidélisation de la clientèle, ça c'est le plus important. Est-ce qu'on est encore armé pour le faire ? Je pense que oui, quand même.
Christophe Cataner, député maire de Fort-Calquier, le tourisme est aussi social.
Oui, c'est un sujet majeur, le tourisme dans sa globalité. La France est la première destination au monde, et évidemment, quand on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand on est en pays de Fort-Calquier, on sait l'importance qu'il représente. Mais il ne faut pas négliger aussi le tourisme de proximité, le tourisme social. 60% des Français partent en vacances, seulement 60%. Et 80% de ces 60% partent en proximité en France. Je crois qu'il est important qu'on puisse, avec le tourisme social, leur offrir des lieux un peu différents, un peu moins tape à l'œil, des conditions d'accueil sérieuses, confortables, mais qui ne soient pas luxueuses, mais qui permettent justement à chacun de partir en vacances dans de bonnes conditions. Et il y a une culture dans le tourisme social qui est celle de la qualité, celle de l'exigence. Des acteurs qui savent que ce moment de vacances est assez unique pour ceux qui ne partent pas tous les deux mois au bout du monde et qui ont ces moyens-là. Et donc, du coup, je crois qu'il y a vraiment une conscience de cette proximité. On est en famille quand on est dans des lieux comme ici à Cérest de tourisme social.
Avec cette Assemblée Générale de l'UNAT ici à Cérest, on s'est rendu compte aussi que le territoire avait besoin de la vision parisienne et jacobine peut-être. Vous êtes également législateur, vous êtes député. Qu'est-ce que peut amener l'État et le Parlement aux acteurs du développement du territoire ?
Il faut toujours se poser la question de l'attractivité de son territoire. Nous sommes dans un milieu très concurrentiel. 1 milliard de touristes aujourd'hui, 2 milliards à l'horizon de 20 ans. Et donc on est sur un marché où il y aura des gagnants et des perdants. Peut-être pendant trop longtemps, sur un territoire comme le nôtre, on a pensé que le développement était mécanique. Chaque année, on progressait un peu plus. On venait dans le Luberon, on venait à Fort-Calquier. jusqu'au moment où on s'aperçoit que finalement, avec les tarifs low cost, par exemple, partir à l'étranger n'est pas si cher que cela. Et donc, du coup, il est important que le législateur en France préserve cette offre touristique de proximité, avec des arbitrages, comme ceux en faveur d'une TVA qui soit pas une TVA de luxe sur la question des vacances, avec aussi l'attractivité de la France et donc un travail à faire sur nos grands aéroports. Parmi les grands chantiers, l'interconnexion entre l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle et Paris, ça fait partie aussi des réponses qu'il nous faut apporter. Mais c'est aussi le développement demain de l'aéroport de Nice et la volonté de faire rentrer à son capital des capitaux privés pour en garantir le développement. C'est aussi ce qui a été fait par Marseille, avec l'aérogare, elle aussi low cost, il fallait s'adapter et donc il y a une volonté de tous les acteurs publics d'offrir des conditions d'accueil. Je crois que c'est ça la responsabilité du législateur. Et puis c'est aussi d'incarner, de porter, de garantir la sécurité sur les questions touristiques. On sait que la France, vu de certains pays, peut apparaître comme un pays insécure. Mais je crois qu'il est important, et on a vu comment des chaînes américaines, par exemple cet hiver, ont fait des reportages totalement imbéciles sur la réalité qu'ils voulaient montrer de la France. Mais je crois qu'aussi c'est la responsabilité de l'État de garantir le fait qu'on puisse en sécurité venir en vacances sur nos territoires. Nous avons la chance d'être préservés, mais il faut encore le faire savoir. Vous savez comme moi que très souvent, on subit des images médiatiques. Prenez le tourisme de ski. Il suffit qu'il n'y ait pas de neige en Savoie pour qu'on vous explique qu'évidemment, il n'y a pas de neige en France. Et on a des saisons où c'est même paradoxal. On a une excellente neige dans les Alpes du Sud, on n'en a pas en Savoie. Eh bien, il n'empêche qu'on vous parle que de la neige de Savoie. Donc, c'est aussi ça notre responsabilité, c'est de garantir cette juste information, de faire en sorte qu'on puisse montrer qu'il n'y a pas une destination unique, la région Île-de-France, par exemple, qui l'emporte sur les autres. C'est ça notre responsabilité du quotidien.